RFI, merci de nous écouter. Il est midi à Paris, 10h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, depuis ce matin, des produits du monde entier surtaxés de 10% à l'entrée des États-Unis. Conséquence des décisions du président américain Donald Trump qui lance là le début de sa guerre commerciale. Pendant ce temps-là, l'Europe s'organise. Une riposte en deux parties est prévue. Les détails dans un instant. Plus d'une semaine après le terrible séisme qui a frappé de plein fouet la Birmanie, un bilan revu à la hausse, plus de 3300 morts selon les autorités. La guerre se poursuit aussi dans le pays. L'ONU se dit consternée et demande l'arrêt immédiat des opérations pour venir en aide à la population. Et puis nous irons en Australie, un pays modèle en matière de lutte contre le tabagisme. De nouvelles mesures viennent d'être mises en place. Reportage en fin de journal.
Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage.
Et vous reconnaissez sûrement cette musique, Beau Dimanche, du duo malien Amadou et Mariam. Eh bien, le chanteur Amadou Bagayoko est décédé ce vendredi à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie, on l'a appris hier soir. Révélé en France en 98, puis mondialement en 2004 avec l'album Dimanche à Bamako, produit par Manu Chao. Amadou et Mariam ont collaboré avec des artistes de renom comme Coldplay ou Stevie Wonder. Les réactions sont vives dans le monde de la musique. Maurice Touré, animateur culturel et correspondant de Couleurs Tropicales à Bamako, et il est très ému.
Amadou, c'est un anti-star, je pourrais même dire ainsi. Sa discrétion, son humilité, c'était ça sa grandeur. Depuis presque une quarantaine d'années, Amadou brille, fait briller le Mali à travers ce couple mythique qu'on appelle Amadou et Mariam. Depuis l'INA, l'Institut national des aveugles de Bamako, son passage à Abidjan. Et aujourd'hui, sur la scène internationale, Amadou est resté discret. Mais il est resté cet artiste, magnifique artiste, qui a sillonné le monde, qui a eu des lauriers, des distinctions partout. La perte d'Amadou est une symphonie inachevée. Parce qu'il y a cela quelques jours, on voyait encore ces dates dans le monde entier qui tombaient, que ce soit le Canada, les États-Unis, l'Amérique, l'Europe. Amadou est parti trop tôt. Il est parti trop tôt. Et mes condoléances encore à Mariam. Elle a vraiment besoin de nous pour que nous puissions être à ses côtés, pour qu'elle puisse surmonter cette difficulté. Que l'âme d'Amadou me repose en paix. Il fut un grand et il restera un grand artiste.
Les hommes et les femmes, hommes et les beaux boubous.
Voilà donc les propos hommage de Maurice Touré, animateur culturel et correspondant de Couleurs Tropicales à Bamako, après le décès hier d'Amadou Bagayoko, qui était souffrant depuis un certain temps, a déclaré à l'AFP son beau-fils Youssouf Fadiga. Le duo Amadou et Mariam laisse derrière lui plus de 1 million d'albums vendus, de nombreuses récompenses aux victoires de la musique en France notamment, et une nomination aux Grammy Awards américains en 2010. Des produits du monde entier surtaxés de 10% à l'entrée des États-Unis depuis ce matin. Après les décisions de Donald Trump sur les droits de douane cette semaine, c'est une déflagration pour le commerce mondial et qui va s'amplifier dans les jours à venir. Certains biens ne sont pas concernés pour l'instant, comme le pétrole, le gaz, le cuivre, les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques. Mais l'addition s'annonce salée dès le 9 avril prochain pour les pays qui exportent le plus vers les États-Unis. Plus 54% pour la Chine, par exemple, plus 20% pour l'Union européenne. L'Union européenne qui s'organise pour répondre à cette guerre commerciale. Une réunion d'urgence a été organisée jeudi à l'Elysée. Les 27 préparent une riposte en deux temps, a annoncé le président français. Emmanuel Macron a par ailleurs appelé à suspendre temporairement des investissements aux États-Unis. Ce matin sur RFI, Julien Coquelle-Rohem recevait Mathieu Collet, président et fondateur d'Euro Agency Group, membre de l'Association française des conseils en lobbying. Et selon lui, le cadre de l'Union européenne est le meilleur pour répondre aux droits de douane de Donald Trump.
C'est le meilleur cadre possible parce que c'est un marché de 450 millions de consommateurs, donc qui est un des plus grands marchés au monde. C'est ce qui donne à la France et aux ensemble des pays européens de la puissance au niveau international et c'est vraiment le meilleur niveau pour pouvoir répondre. Si on prend un mois, on sait que l'Union européenne est attachée à répondre de la manière la plus intelligente possible et à pouvoir influencer Donald Trump le mieux possible. Par exemple, en surtaxant, en rétorsion des produits qui sont fabriqués dans des usines, dans des circonscriptions qui vont avoir un impact sur les républicains Donald Trump, par exemple. C'est ce que l'Union européenne sait très bien faire. Donc que ça prenne un mois pour coaliser tout le monde, toutes les représentants d'intérêts européens, et qu'on fasse les choses le mieux possible, oui, c'est normal. Et c'est un délai qui n'est pas choquant.
Mathieu Collet, président et fondateur d'Euro Agency Group, membre de l'Association française des conseils en lobbying. C'était l'invité de Julien Coquel-Roem ce matin sur RFI. Et depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, l'avenir de l'Ukraine est au cœur des interrogations. Pour l'heure, la guerre se poursuit. Hier, la ville de Kryvyi Rih, dans le centre du pays, a subi l'une des frappes russes les plus meurtrières de ces dernières semaines. Selon les autorités, le bilan est d'au moins 18 morts, dont bon nombre d'enfants. Le président Volodymyr Zelensky, originaire de cette cité industrielle, a dénoncé les faits. C'est un acte démontrant que Moscou ne veut pas de cesser le feu, a-t-il déclaré, alors que des échanges diplomatiques se poursuivent depuis février pour tenter de trouver une issue au conflit. Il y a 8 jours, un puissant séisme a frappé la Thaïlande et la Birmanie. La Birmanie qui fait état de plus de 3300 morts selon un nouveau bilan rendu public par les médias d'État. Il y aurait aussi 4500 blessés, 220 personnes toujours portées disparues. Et malgré la situation, la guerre continue. La Birmanie est en pleine guerre civile depuis 4 ans et le coup d'État de la junte militaire au pouvoir en février 2021. La junte a mené plusieurs attaques contre ses opposants après le séisme et c'est donc la consternation à l'ONU. L'organisation demande l'arrêt immédiat des opérations pour se concentrer sur l'aide aux sinistrés. À Genève, Jérémy Lanche.
Depuis vendredi 28 mars, jour du séisme, la junte a mené au moins 61 opérations militaires. Certaines ont eu lieu quelques heures seulement après le tremblement de terre. Des frappes aériennes avec des avions, mais aussi, c'est devenu une spécialité de la junte, avec des parapentes motorisées, comme l'explique James Rodever du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Is a military operative?
En fait, ce sont des soldats équipés de parapentes avec des sortes de grands ventilateurs. Ils utilisent ça comme moteur pour survoler leurs cibles sur lesquelles ils lancent des bombes directement à la main. Le problème, c'est que ça ne fait aucun bruit, donc les gens ne savent pas quand ils arrivent. La plupart du temps, les attaques visent des civils pour terroriser la population et les forcer à fuir.
Et le cessez-le-feu avec les groupes rebelles n'y a rien changé. Au moins 16 attaques ont eu lieu depuis son annonce. Larguer des bombes après un séisme est tout simplement ahurissant, dit encore le rapporteur spécial des Nations Unies pour la Birmanie, Tom Andrews. L'ONU rapporte même que des civils venus aider aux opérations de secours ont été recrutés de force par les militaires. Pendant ce temps-là, l'aide parvient toujours au compte-gouttes, dans un pays largement fermé aux organisations internationales jusqu'ici, et où une bonne partie des sinistrés sont dans des territoires qui échappent au contrôle de la junte. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Autre séisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, séisme de magnitude 6,9 au large de l'île de Nouvelle-Bretagne, annonce ce matin de l'Institut géologique américain. Le tremblement de terre de faible profondeur a déclenché une alerte au tsunami qui a ensuite été levée par le Pacific Tsunami Warning Center. Direction l'Australie, c'est déjà l'un des pays les plus avancés en matière de lutte contre le tabagisme. Eh bien, il vient d'adopter une série de nouvelles mesures, parmi lesquelles l'interdiction des cigarettes mentholées. Plus étonnant encore, désormais, les cigarettiers ont l'obligation d'imprimer des messages de prévention, pas seulement sur les paquets, mais aussi sur chaque cigarette qu'ils contiennent, a signé le reportage de Grégory Pless.
Du poison à chaque bouffée abîme vos poumons, combien cela vous coûte-t-il ? Voilà désormais le genre de message que les fumeurs australiens verront imprimé sur le filtre de chaque cigarette. Une mesure introduite hier, le 1er avril, qui pourrait avoir un impact positif sur Rover, un jeune étudiant.
Peut-être que quand je verrai ce genre de message, ça me poussera à réduire ma consommation de tabac.
Mais à vrai dire, sur la dizaine de personnes interrogées ce matin, il est bien le seul. Ainsi, Max trouve la mesure un peu ridicule et quand on lui demande si cela va l'inciter à réduire sa consommation, voici ce qu'il répond.
Probablement pas. En revanche, je vais sûrement me mettre à collectionner les filtres avec les messages les plus marrants. Donc, je ne pense pas que cette mesure sera efficace. En revanche, l'interdiction des menthols, ça devrait marcher.
L'interdiction des cigarettes mentholées, c'est l'autre mesure phare entrée en vigueur hier. Et de fait, Omar, qui fume des menthols, ne s'imagine pas fumer autre chose.
Je vais sûrement arrêter parce que je n'aime pas le goût des autres cigarettes à part les menthols et qu'ils vont les interdire. Donc c'est une bonne chose pour moi.
Reste à savoir maintenant si ces mesures permettront à l'Australie de réduire encore plus la part des fumeurs dans la société. Actuellement, moins de 12% des Australiens fument du tabac contre plus de 30% en France. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Plus d'informations sur rfi.fr.